Europe 1.
La rumeur, elle intrigue, elle interroge, elle inquiète ou elle fascine. Elle est souvent transmise de bouche à oreille et lorsqu'elle est lancée, il est très très difficile de l'arrêter. Pourtant, la rumeur peut toucher chacun d'entre nous et détruire une vie. La rumeur prend source après un mensonge, une vengeance ou encore une erreur et malgré l'intervention de la justice, elle continue parfois encore à courir. Pour y échapper, certaines personnes n'ont alors d'autre choix que de quitter leur terre natale. Comment faire face lorsqu'on est victime de fausses accusations? Comment affronter le regard des autres? Et comment prouver son innocence et rétablir la vérité? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Patricia. Il y a 20 ans, elle a été accusée d'avoir participé à un braquage très violent. Des rumeurs qui la poursuivent encore aujourd'hui. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, alors soyez les bienvenus. Patricia, bonjour.
Bonjour, Olivier.
Merci de m'accueillir chez vous pendant quelques jours pour que nous parlions de vous, de votre histoire, surtout d'une rumeur qui vous a poursuivi encore aujourd'hui, mais qui est née il y a 20 ans. Vous avez été accusé d'être la complice, ou même parfois dans la bouche de certains, d'être celle qui avait pu organiser un cambriolage, qui est plutôt le braquage d'un homme supposé riche. Cet homme, le baron, est braqué par deux personnes qui d'ailleurs le braquent de manière très violente.
Oui.
Et la rumeur naît. D'ailleurs, à cette époque, est-ce que vous avez pensé une seule seconde qu'on allait vous associer à ce braquage?
Mais pas du tout. Moi, je l'ai su longtemps après le braquage, plus d'un an après.
Oui.
Il y avait une grande froideur dans les relations avec les gens du village, parce qu'on se côtoyait dans les magasins, forcément. Et j'avais bien remarqué qu'il y avait de la froideur, mais je me suis dit, voilà, il faut laisser le temps au temps. Puis mon mari me dit un jour, il faut que je te le dise. Voilà, il me lâche le morceau et il me dit, voilà ce qu'on dit sur toi. T'es associé à ça, tes origines. Et là, ça me tombe dessus.
Née d'une mère gitane et d'un père paysan, tous deux trop précaires pour l'élever, Patricia a grandi dans une famille d'accueil. Même si elle n'a jamais vécu avec les gens du voyage, elle a toujours été fière de ses racines tziganes. À l'âge de 20 ans, la jeune femme exerce le métier de formatrice en équithérapie. Les chevaux sont sa passion, mais maman depuis peu, elle accepte un boulot de serveuse dans un restaurant pour être plus près de son fils. Alors dans ce restaurant où vous travaillez, il y a un client assez particulier qui vient.
Oui, assez marginal.
Assez marginal.
Dans son genre. Donc un monsieur, bel homme, 75 ans, avec sa belle voiture. Donc on le voyait arriver de loin dans un petit village. C'était un petit peu. Je faisais un petit peu remarquer. Et là, sa particularité, c'était de venir boire sa petite coupe de champagne régulièrement. Mmh. Donc on l'accueillait à bras ouverts. Alors le baron, quoi de neuf aujourd'hui? Puis toujours des petites anecdotes, des blagues. Et puis voilà, il dragouillait un peu la patronne et les serveuses, mais toujours bon enfant. Mmh.
Il adorait qu'on l'appelle monsieur le baron.
Oui.
Ce qui faisait quand même sa particularité, cet homme, c'est qu'il dégageait une certaine classe. Une Rolls,
Il changeait de Rolls un petit peu, il alternait entre la bleue, la blanche, la voiture de sport. Jusqu'au jour où il me dit, mais tu voudrais pas travailler pour moi au château? Alors il me le propose souvent et moi je suis bien à ma place, donc je vais pas dans son sens tout de suite. Jusqu'au jour où je me sens un petit peu harcelée quand même. Et je me suis dit, je vais aller voir plus près de quoi il me parle exactement. Et moi, j'avais repéré qu'il était très cultivé. Parce que derrière ces petites blagues potaches, il y avait quand même un homme avec des choses dans la tête. Et il m'intéressait, il m'intriguait.
Il vous intriguait?
Oui. J'avais l'intention de mieux le connaître, de toute façon. Mmh. Et j'arrive au château, c'est vrai que je suis subjuguée. C'est magnifique. Mmh. Un très beau parc, mais je m'aperçois qu'il y a énormément de travail, que bah, malheureusement, il ne peut pas entretenir tout seul. Que je me dis, effectivement, il ne m'a pas bluffé, il a vraiment besoin de quelqu'un.
Il est seul.
Je m'aperçois qu'il est seul, qu'il n'a pas ses enfants à demeure, qu'il n'a personne. Hein. C'est vrai, il n'a pas menti.
Donc vous devenez la gouvernante de cet homme. Est-ce que votre niveau de vie a changé en rejoignant le baron? Je dirais au niveau du salaire, est-ce que votre niveau de vie a changé?
Non.
Est-ce qu'il y a d'autres employés ou vous n'êtes que...
Non, je suis toute seule et tout passe par moi.
D'accord. Vous étiez aussi devenu son chauffeur.
Oui, particulier. Bon, on n'allait pas très loin. Il n'avait pas de grands projets. Ça se limitait à 20 km à la ronde du château. Mais c'était une vie qui lui convenait bien. Il avait des petits plaisirs.
Est-ce que vous ne pensez pas, Patricia, que les racines du mal, de cette rumeur, elles ne prennent pas là déjà?
Probablement.
Probablement.
Oui.
Mais il doit y avoir une sorte de jalousie aussi qui naît là, de ce rapport que vous avez avec cet homme.
Je ne me rendais pas compte de la naissance de ce qui allait m'arriver,
d'accord,
de l'histoire. Bah.
Patricia s'épanouit dans son activité de gouvernante. Très investie, elle noue un lien privilégié avec le baron et devient à l'occasion sa confidente. Un an après son arrivée, alors que Patricia est sortie faire des courses pour son employeur, elle comprend à son retour au château qu'un drame est arrivé en son absence.
Il y a des gyrophares partout dans la cour du château. Donc je suis très inquiète. Voilà, je me dépêche et je m'aperçois que le baron est assis, le visage tout huméfié. Je comprends qu'il a été frappé, parce que ça se voit, il a le visage tout boursouflé, sanguinolent. Donc je sais que c'était grave, hein, et je sais qu'il a été frappé, mais je ne sais pas du tout ce qui se passe.
Quelle émotion vous traverse lorsque vous voyez cet homme qui est votre patron, mais qui est aussi quelqu'un pour lequel vous avez une grande estime?
Beaucoup d'empathie et beaucoup de... Enfin, je suis très choquée, j'ai beaucoup de soucis tout de suite, parce que vu l'âge qu'il a, je me dis, mais est-ce qu'il va se sortir de ça?
Les gendarmes vous interrogent ce soir-là, ils vous posent des questions. Est-ce que vous sentez...
Ils sont complètement focalisés sur la recherche d'empreintes.
Oui.
Des questions au baron, à savoir si ces personnes avaient un accent, s'il avait pu repérer des détails.
Est-ce qu'il en avait repéré?
Non.
Non.
Des hommes, grands, forts, puissants et très violents.
Ils veulent quoi, ces deux personnes? Ils veulent l'argent du baron?
Oui, ils demandent sans cesse, dis-nous où est le coffre-fort. Donc, il répond qu'il n'en a pas, tout simplement, et c'est vrai. Alors, il le menace de tuer ses chiens. Il dit, non, j'ai toujours pas de coffre-fort. Et là, après, ça a été la descente aux enfers pour lui.
Ce qui va s'enchaîner derrière, c'est que vous allez être soupçonné, que la rumeur, là, va commencer dès le lendemain. Mais cette rumeur... Elle enfle sans que vous en ayez connaissance et vous continuez à travailler au château.
Oui.
Pendant combien de temps?
Je soutiens encore une petite année.
Oui.
Une année épuisante. Vraiment épuisante où je ne peux plus du tout le laisser seul.
Oui.
Donc je cherche des moyens pour pouvoir partir doucement.
Une solution
Oui.
Quel type de moyens vous cherchez? Vous cherchez quelqu'un qui puisse vous remplacer?
Oui.
Et il a fini par accepter.
Il a accepté.
Lorsque vous quittez le baron, dès que vous le quittez et que vous êtes à nouveau confronté aux autres, vous avez un mauvais pressentiment.
J'avais gardé mon comportement de quelqu'un d'amical dans les magasins, dans les petits commerces de proximité. Et bizarrement, je me rends compte que les gens sont froids et distants. Et Henri Pierre m'annonce cette rumeur. Tu as participé au braquage du baron. Et ici, tu es perçue comme une opportuniste, pour quelqu'un qui profite. Vous imaginez l'effet de l'image du tsunami ? J'ai ressenti la même image, quelque chose qui vous submerge et qui vous assied. Vous êtes cloué parce que vous ne comprenez pas que des gens puissent être assez méchants après un drame pareil, d'aller imaginer des choses aussi machiavéliques. Le problème, c'est qu'on tombe en face de murs, de gens qui sont campés sur leur position et qui estiment que ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont cru, c'est une évidence. Que je ne peux pas être quelqu'un d'honnête.
Il y a quelque chose que vous avez compris immédiatement. C'est que cette rumeur, elle était surtout liée à vos origines. On vous appelle la Romanos, qui est le terme péjoratif pour désigner les gens du voyage. Et c'est ce qui vous a finalement le plus blessé.
Le mot Romano, c'est vraiment une image négative. Et moi, ça me dérange énormément. C'est une insulte pour mes origines que je respecte.
La police ne vous a jamais suspecté ?
Non.
Celui qui a été agressé, le baron, à aucun moment ne va évoquer la moindre suspicion à votre égard ?
Non.
Est-ce que quelqu'un pouvait vous en vouloir au point de la lancer, cette rumeur ? Est-ce que vous aviez des ennemis ici ? Est-ce que vous aviez eu...
Je n'ai pas de la mémoire d'avoir porté atteinte à quelqu'un au point de subir ça. C'est une violence, je la ressens comme un coup, comme une humiliation permanente. Sincèrement, personne ne m'a tendu le bras pour me dire « on a entendu une rumeur sur toi, mais moi je suis là pour toi ». Personne. On a besoin dans la vie d'être entouré. C'est pas un but en soi de vivre isolé.
Oui.
Et l'entourage le plus proche, quand il est hostile, c'est perturbant. C'est pas ce que j'aurais souhaité.
Est-ce que cette rumeur vous a transformé à un moment ?
Pour prouver qu'ils avaient tort, j'ai passé des années à faire mes preuves.
Ouais.
J'ai travaillé double, j'ai mis doublement d'énergie pour tout faire bien, et ça ne marche pas. Je mérite pas ça. On a aussi le droit de vivre en paix.
Les deux hommes qui ont agressé le baron n'ont jamais été retrouvés. À défaut, la rumeur sur l'implication de Patricia dans la tentative de braquage a, elle, continué de courir. Je ferme la porte ?
Oui. Allez, en route.
Donc là, on va au marché de Bourg-en-Bresse.
On est parti.
Merci à vous.
Le mari de Patricia, Henri Pierre, est boulanger. Le couple vend son pain sur plusieurs marchés de la région. Au contact de la population locale, Patricia ressent encore les effets de la rumeur, même 20 ans après. Vous auriez pu quitter la région. Le fait d'avoir décidé de rester ici, quel sens elle a cette décision pour vous aujourd'hui ?
C'est encore une évidence pour moi parce que j'ai pas besoin de fuir. J'ai besoin d'affirmer que je suis innocente et que ma place est ici parce que j'ai fait ma vie ici, mes enfants, et que je veux pas leur donner raison, surtout.
Le père des enfants de Patricia est décédé en 2008.
Ça va, tu t'en sors ?
C'est à ce soir-ci qu'on vient me remplacer.
Henri Pierre, avec lequel elle s'est remariée en 2017, était son voisin depuis 30 ans.
Vous avez tout vendu ?
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Lui a toujours été là pour elle, y compris pour la défendre d'une rumeur à laquelle il n'a jamais cru.
Vous le connaissez bien, vous, Henri Pierre, ce monde agricole. Difficile de faire changer d'avis les gens quand ils ont une idée ?
Oui, je pense, oui. Ouais.
D'ailleurs, cette rumeur, en fait, Henri Pierre, j'ai envie de vous dire, elle vous touche aussi ? Finalement, puisque à un moment, en fait, lorsque vous vous mettez ensemble, vous êtes un peu le pigeon dans la rumeur. Vous êtes celui qui va se faire plumer.
Il n'y a absolument aucune importance. J'ai pris ma décision, c'était comme ça. Et après, ce que les gens peuvent penser, c'est pas très important, en fait.
Henri Pierre, vous n'avez jamais cru à cette rumeur, mais elle a fini par vous toucher. Elle a fini par vous toucher par vos enfants.
Oui. Ah ben évidemment, quand les enfants, on perd plus ou moins ses enfants, c'est quand même un petit peu compliqué, quoi. Alors, je ne les ai pas complètement perdus, mais il y a des distances.
Henri Pierre a 4 fils d'un premier mariage. Depuis qu'il a épousé Patricia, 3 d'entre eux lui ont tourné le dos. Pierre-Louis, qui vivait encore ici avec son père, a dans un premier temps lui aussi rejeté sa belle-mère.
Ça va ?
Ça va. T'as toujours un chien ?
Regarde tous les arbres que tu as plantés, là, ils s'en sortent bien.
Au tout début de leur relation, ils se voyaient qu'à l'extérieur. Donc Patricia venait très peu ici, à la ferme. Je pense qu'elle savait aussi qu'il pouvait ressentir un malaise ou quelque chose. Et puis c'est vrai que nous, les peu de fois où au début elle est venue ici, je pense qu'on ne l'a pas mis à l'aise aussi. On n'a pas essayé de faire en sorte de tout de suite la mettre dans la famille. Parce qu'on avait des préjugés, et puis on avait surtout on a eu beaucoup d'échos. Tous ces a priori-là, on est baigné dedans depuis qu'on est tout petit.
Ouais.
Et c'est vrai que tant qu'on n'arrive pas à les rencontrer, à vraiment à se faire notre propre avis sur les personnes, on juge. On juge et forcément vous vous dites, mais non, c'est pas possible, comment il peut se mettre avec une personne comme ça ? Et vous n'avez même pas essayé de faire un pas pour essayer d'apprendre à la connaître, savoir si vraiment ces rumeurs sont fondées ou pas, si c'est une bonne ou mauvaise personne. Mmh. Et au début, c'est malheureusement ce qui s'est passé. Moi, je me suis vraiment fermé. On était vraiment en gros conflit. Il y a eu des mots très violents. Je l'ai insulté. On a failli en venir aux mains aussi. Un soir, ça a été très, très, très violent. Et c'est vrai que du jour au lendemain, je suis parti de la maison.
Alors, comment progressivement les choses se sont-elles inversées ? Parce que ça ne s'est pas fait d'un seul coup. Comment est-ce que vous êtes revenu à la maison et comment les choses ont évolué entre vous et votre belle-mère ?
Ce que je pense qui m'a aidé après à essayer d'apprendre à la connaître, c'est le fait d'avoir fait mes études à l'extérieur, d'être sorti un petit peu de cette campagne.
Ouais.
Je pense que ça m'a aidé.
Ouais.
Vraiment, ça m'a aidé. Et puis, quand je suis revenu, en premier lieu pour mon père, elle ne m'a pas rejeté. Elle était là, me disait bonjour. Elle a toujours essayé de discuter avec moi.
Vous n'avez jamais évoqué le passé ensemble en plus, ce qui est important en fait
Non, je me suis excusé. Parce que pour moi, c'était important, je trouve, voilà, et même aujourd'hui, je regrette encore cette attitude-là. Mmh. Voilà, mais non, elle m'en a jamais voulu, elle ne me l'a jamais fait ressentir, ouais. en tout cas.
Ton attitude était légitime.
Mmh.
J'ai pensé qu'il avait tellement entendu de choses qui étaient ancrées dans sa mémoire, c'était difficile pour un jeune de penser autrement.
Est-ce que vos autres frères ont été... Est-ce que le fait qu'ils soient restés ici, qu'ils aient continué à fréquenter des personnes ayant entendu les parents aussi entretenir cette image de la gitane qui allait plumer le pauvre boulanger ?
Oui, c'est à peu près ça.
Oui.
Malheureusement, c'est ça. Hein.
Ouais.
Quand ils se sont mariés, je crois que l'une des premières choses qu'ils m'ont dit à mon père, c'est « Est-ce que tu as fait un contrat de mariage ?»
Quelle relation entretenez-vous avec vos frères ? Elles sont bonnes ?
Non, aujourd'hui, moi, je suis exclu. Pour eux, je suis complètement exclu.
Pourquoi ?
J'ai l'impression d'être le traître, en fait, de la famille. Je le ressens comme ça, c'est-à-dire je suis le traître. Voilà, parce que je m'entends bien avec Patricia, je la considère un peu comme une deuxième maman. Voilà, c'est ma belle-mère, elle est avec mon père, on s'entend très bien. Et vraiment, le peu de fois où je les ai revus, je suis mis de côté, je fais plus partie de leur famille, du moins. La rumeur, des fois, fait énormément de dégâts. Et les personnes qui en sont victimes, je pense qu'elles en souffrent réellement.
Que peut-on vous souhaiter aujourd'hui, alors ?
La vie m'a bien comblée. J'ai un bon mari, des enfants que j'admire, un métier passionnant. Donc, j'attends un avenir encore plus propice.
Je vous embrasse.
Merci
beaucoup. Portez-vous bien.
C'était un super plaisir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une création Europe 1 Studio. Production, Lisa Soster. Réalisation, Christophe Davio. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez cliquer pour vous abonner et être averti dès qu'il y a un nouvel épisode. C'est gratuit. Alors je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt.